Priorité Santé, Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des co-infections, VIH, SIDA, hépatite et maladies bactériennes. On en parle à l'occasion des 7e rencontres Nord-Sud qui se déroulent demain à Paris sur le thème SIDA en Afrique, stop aux tueurs négligés. On en parle avec le professeur Pierre-Marie Girard, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint-Antoine, le professeur Serge Éolier du CHU de Trècheville à Abidjan, Côte d'Ivoire, le professeur Imran Doy qui est secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le SIDA au Sénégal. Juste avant les informations, on parlait de l'importance du dépistage. Professeur Serge Éolier, vous insistiez sur le fait que les gens viennent trop tardivement justement se faire dépister et le personnel soignant hésite aussi à demander le dépistage.
Oui, là, ce que je veux faire souligner, c'est qu'il ne faut pas que le dépistage de l'infection à VIH soit vu comme un acte de spécialiste ou de personnes formées. Dans les pays comme les nôtres, où c'est une maladie, même lorsqu'on parle de prévalence faible, qui est aux alentours d'1%, voire 5% dans certaines régions ou dans des populations concentrées, il faut que le dépistage soit un acte de soin, soit un acte de routine. Et ça nous ouvre la porte aujourd'hui pour faire le dépistage de l'hépatite B et l'hépatite C. On y reviendra tout à l'heure. Donc, lorsqu'on parle de personnes qui viennent tard, en fait, on les a dépistées tardivement. Voilà. Et l'autre point sur lequel je voulais insister, c'est les maladies bactériennes. À la différence des pays du Nord, où vous n'allez pas voir beaucoup de maladies bactériennes invasives, nous, on les voit. Et c'est vrai, comme Pierre-Marie l'a dit, avec une sévérité particulière, mais une prise en charge.
Auditeurs comprennent bien, ce sont quoi exactement
alors,
ces maladies
bactériennes.
Par exemple, quand on vous dit
la tuberculose, c'est une maladie bactérienne mais codifiée, qui appartient à un programme. Mais lorsqu'on vous parle d'une méningite, d'une infection pulmonaire sévère, d'une infection urinaire sévère, c'est-à-dire généralisée, qui tue, d'abord le diagnostic est facile à faire cliniquement, mais le diagnostic complémentaire qui nécessite qu'on fasse des prélèvements bactériologiques, est fait dans moins de 10% des cas. Et quand il n'y a pas de diagnostic, le traitement aussi est suboptimal, n'est pas le traitement que l'on voudrait avoir, mais pire, quand les antirétroviraux sont gratuits, ces traitements, qui globalement sont moins chers que les antirétroviraux,
ne le sont pas.
C'est à la charge du patient, sauf dans des cas exceptionnels de programmes d'essais thérapeutiques. Et les patients meurent alors qu'ils sont accès aux antirétroviraux. C'est là que se situe tout le drame.
Il y a une aberration du programme, là. Il faudrait que ce soit gratuit aussi, c'est ça que vous êtes en train de dire.
Je n'irai pas jusque-là, parce qu'il y a le programme qui est en face de moi. Mais je pense qu'il faut que le programme ait de la documentation. Il faut que le programme ait les coûts et ait la réalité de ces données. Ces données proviennent d'essais thérapeutiques. Il est important qu'on les documente en routine. Mais j'insiste pour dire que les maladies bactériennes surviennent tôt.
Et professeur, donc Ibrahim Doy, vous étiez en train d'expliquer, donc déjà il faudrait que les patients soient mis sous traitement plus tôt, et déjà on éviterait quand même un certain nombre de ces maladies.
Oui, effectivement, moi je pense qu'il y a pas mal de recherches qui ont démontré que si nous traitons très tôt les malades, et que tous les malades, ces traitements soient accessibles, en tout cas la tuberculose diminue. Et beaucoup d'infections opportunistes. En tout cas, ça, je pense que c'est...
Et de façon très concrète, est-ce que la recommandation, par exemple, de l'OMS de mise sous traitement en dessous de 350, c'est ça? C'est des cas, est-ce que c'est la bonne chose ou il faudrait mettre plus tôt les patients?
Bon, mais je pense que les recommandations de l'OMS, d'abord, ça, je sais que Serge est là, il peut en témoigner, c'est appliqué tardivement dans les pays africains. Hein, souvent, on dit, donne les recommandations, c'est 5 ans après que ça s'est appliqué.
Donc la recommandation, alors, elle n'est pas appliquée pour l'instant, par exemple,
bon,
au Sénégal?
En tout cas, au Sénégal, c'est appliqué. Au
Sénégal, et en Côte d'Ivoire, Serge?
Nous appliquons...
En Côte d'Ivoire, oui ou non, hein?
Je dirais oui, voilà, et hein, dans la majorité, je peux vous dire, dans la majorité des pays d'Afrique subsaharienne, c'est appliqué, c'est signé, mais le temps de mise en œuvre met 2 ans.
Voilà. Ah oui, donc c'est pas appliqué. Moi, quand je demande si c'est appliqué, c'est appliqué sur le terrain.
Bon,
il faudrait aller faire une enquête sur le terrain pour voir la mise en œuvre.
Bon, en tout cas, pour le Sénégal, ça, je pense que nous essayons toujours d'appuyer le RESAPSI, hein, c'est-à-dire Serge est le coordonnateur, et nous travaillons ensemble pour réactualiser très souvent les protocoles. de l'OMS, de les adapter à l'Afrique. Mmh. Bon, je pense que dès qu'on le fait, en tout cas dès qu'on adapte cela, bon, nous, nous appliquons au Sénégal. Mmh. Alors, nous l'avons fait pour, même pour la PTME, la prévention de la transmission mère-enfant. Mmh. L'option B+, hein, qui a été proposée, je peux dire, en juillet, à la conférence de Washington, nous sommes en train de l'appliquer au Sénégal.
Je voudrais bien comprendre.
Ça veut dire que, je veux dire que c'est important, à notre avis, qu'on essaie d'appliquer les recommandations de taux de CD4 à 350 dans tous les pays. Bon, déjà, je pense que pour l'Occident, en France, je pense qu'on est à 500, si je comprends bien.
Oui, Pierre-Marie Gérard. Alors,
un mot, pourquoi on n'étend pas jusqu'à 500, par exemple, comme dans les pays du Nord ? C'est qu'il ne faut pas non plus que, au nom de cette extension des indications, on fragilise tout le système. La priorité, c'est quand même de soigner les patients. Un, les malades, deux, ceux qui ont des CD4, ces fameuses cellules qui sont basses, le mieux possible est maintenir dans les programmes. Et il y aura un bénéfice, mais il y a une sorte de gradation dans l'amélioration de ce bénéfice et de l'extension des traitements.
Clairement, on n'arriverait pas pour l'instant à mettre tout le monde
voilà,
sous traitement,
c'est ça. Voilà, il y a un principe de réalité. On ne peut pas absolument traiter tout le monde.
Mais ce serait l'objectif à terme.
Et attention, comme on l'a dit tout à l'heure, oui, ça serait l'objectif. L'objectif, ça serait ça. Et en plus, il y a un impact sur la prévention, c'est-à-dire qu'on va réduire la transmission.
Ah, ça, réexpliquer, c'est vraiment très important. Pourquoi il y a un impact? Pourquoi la mise sous traitement a un impact sur la prévention?
Maintenant, il est parfaitement bien montré. Avant, il y a eu une querelle entre est-ce qu'on met tous les moyens sur la prévention ou sur le traitement? Et en fait, on voit très bien que les personnes qui sont mises sous traitement et qui prennent bien leur traitement, il y a un certain nombre de conditions, sur des virus qui sont sensibles, donc qui ont, vraiment il n'y a pas de problème d'observance, vous avez une diminution vraiment drastique, très importante, du risque que cette personne contamine une autre personne. Donc c'est une arme thérapeutique, mais aussi une arme de prévention. Et évidemment, vu les difficultés qu'on a à mettre au point un vaccin, vu les difficultés des campagnes de prévention, l'usage du préservatif qui reste une arme absolument essentielle, mais qui sont encore insuffisantes, on a très envie de dire, étendons l'accès au traitement, et en soi, on va diminuer la transmission entre les êtres humains. Et ça, c'est absolument crucial.
On a des auditeurs qui ont quand même des questions à vous poser. On a Clovis qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Clovis, bonjour. Nous vous écoutons.
Oui. J'aimerais savoir si, est-ce qu'après la détruite de la barrière immunitaire.
Alors, on vous entend très très mal, Clovis. Il faut que vous parliez plus fort, plus près du téléphone, parce que la ligne n'est pas très bonne. On ne vous entend pas bien. On vous écoute.
J'aimerais savoir si, après la détruite de la barrière immunitaire par le VIH, est-ce qu'on peut soigner les maladies opportunistes qui s'installent.
Pierre-Marie Girard.
Oui, enfin c'est une très bonne question. Là, on vous entendait pas très bien, mais en gros, oui. Est-ce que l'on peut corriger le déficit immunitaire induit par le virus, par les antirétroviraux? Formellement, oui. C'est tout le but du traitement. C'est-à-dire que dès l'instant, on va bloquer le virus, on va récupérer ces cellules qui étaient bien fatiguées par le virus. On va effectivement se défendre correctement contre les infections. C'est le fondement même du traitement antirétroviral.
On a Tripaz, merci beaucoup hein, Clovis, on a Tripaz qui nous appelle de Kinshasa en République démocratique du Congo. Tripaz, bonjour.
Oui, bonjour Claire, j'ai deux questions à poser à vos invités.
On vous écoute.
La première, c'est de savoir quelle différence y a-t-il entre infection opportuniste et infection opportuniste.
Alors, professeur Serge Ollier, quelle est la différence entre les deux?
C'est simplement, les infections opportunistes qui concernent les bactéries, les parasites, les champignons, les virus. Et les affections, on ajoute les tumeurs pour faire les affections opportunistes. Aujourd'hui, on va plus loin. On parle d'affections classant sida et d'affections non classant sévère dans lesquelles on mettrait les maladies bactériennes invasives dont on parle aujourd'hui.
Cela procède du fait que l'immunité permet de se défendre contre les bactéries, les infections, mais aussi contre les tumeurs. Tout être humain, à tout moment, a certaines cellules qui sont en train de se cancériser, finalement, à minima, et c'est le système immunitaire qui arrive à les éliminer. Et
on comprend même si la tumeur n'est pas infectieuse.
Même si la tumeur n'est pas d'origine infectieuse. Et en plus, il y a certaines tumeurs d'origine infectieuse. Mais même si elle n'est pas d'origine infectieuse, il faut que le système immunitaire exerce une veille et une attaque de ces cellules qui démarrent des petits cancers. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des cancers, en particulier des lymphomes, des cancers du sang qui peuvent survenir.
Et Tripaz, vous aviez une deuxième question à poser.
Oui, la deuxième question, c'est de savoir si en avalant le sang ou les spermes contaminés, si on peut contracter le VIH.
Professeur Serge Ollier.
A priori, il y a des risques, mais ce n'est pas les modes de transmission connus. Mais il faudra avoir des lésions buccales, des lésions muqueuses, œsophagènes, pour qu'il y ait une transmission de virus. Mais il est carrément déconseillé, de base, d'avaler du sang et du sperme, même s'il n'est pas contaminé. Voilà. Et n'oubliez pas qu'on parle de contamination qu'avec le VIH. Puis il y a deux maladies plus contagieuses qui sont l'hépatite B et l'hépatite C. Donc, lorsqu'on dit qu'un sang n'est pas contaminé, ça ne veut pas dire parce qu'il n'y a pas de VIH qu'il n'est pas contaminé.
Oui, on peut compléter, il y a une situation très particulière de contamination digestive, il faut en parler, c'est au cours de l'allaitement. Là, il s'agit du lait de la maman, quand la maman est infectée, il peut y avoir des transmissions au bébé qui allaite, qui nourrit au sein, et la raison étant qu'il y a une fragilité du système digestif qui va être perméable au virus, ce qui n'est plus le cas à l'âge adulte, hein, mais c'est surtout les enfants donc qui peuvent être exposés à la contamination digestive, c'est un cas très particulier, mais qui joue son rôle, et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas, sauf si la mère est traitée par des antirétroviraux, qu'elle allaite son enfant.
Bon, je pense que ça c'est important, hein. Il faudra pour l'Afrique préciser quand même que l'allaitement est protégé.
Professeur Ibrahim Doye, oui, préciser donc.
Oui, que l'allaitement est protégé parce que ça peut créer des confusions. Surtout, souvent, on a eu beaucoup de problèmes, des réactions même des personnes vivant avec le VIH, des femmes, qui c'est par rapport à l'allaitement, parce qu'ils voulaient imposer le lait. Artificiel.
Mais oui, parce que les préconisations ont changé. Moi, j'ai le souvenir, il y a 10 ans, quand j'ai commencé cette émission, on disait les femmes enceintes ne doivent pas allaiter leur enfant.
Mais effectivement, ça a changé. Parce qu'au début, effectivement, quand on avait... Mais ça a beaucoup évolué, les protocoles sur la prévention de la transmission mère enfant.
Et alors, aujourd'hui, on dit au contraire, elle peut allaiter, mais elle doit être sous traitement, c'est ça?
Mais elle peut allaiter. Mais actuellement même, on est allé plus loin avec l'option B+. Maintenant, dès qu'une femme enceinte est dépistée, on la met sous trithérapie. Et à vie, n'est-ce pas?
Et ça, et
je pense qu'il y a
important.
Aussi un autre élément aussi qui est important à signaler. Bon, tout à l'heure, on a évoqué le problème des taux de CD4. Moi, je pense que le fait d'arriver, de traiter à partir de CD4, en tout cas pour une raison de santé publique...
Ce taux de CD4 montre l'évolution de la maladie, tout simplement.
Bon, effectivement, parce qu'avant, on traitait à 200, n'est-ce pas? On est passé en Afrique maintenant à 350. Et je pense qu'il a été démontré que si nous traitons à 350, on pourrait diminuer de 96% les contaminations dans les couples sérodifférents, n'est-ce pas? Et en Afrique, la plupart des contaminations se fait par voie hétérosexuelle. Donc moi, je pense que c'est important, à notre avis,
d'appliquer
ces recommandations.
Je voudrais qu'on prenne une dernière question d'auditeur. On a le docteur Traoré qui nous appelle de Mopti, au Mali. Docteur Traoré, bonjour.
Oui, bonjour, Claire.
Nous vous écoutons. D'abord, vous allez comment avec la situation difficile que traverse le Mali?
Bon, en fait, bien, pour le moment, en gros, ça va, ça continue vraiment à aller un peu très bien dans toute la région du Mali, surtout pratiquement à Mopti.
Donc les médicaments arrivent en tout cas encore à Mopti?
Bon, juste à présent, le médicament est toujours disponible. Juste pratiquement, il y a souvent des petites ruptures comme d'habitude. Je pense que ça n'empêche pas que les gens fassent la prise en charge globale des personnes vivant par le VIH.
Vous dites comme d'habitude, donc quand même, il y a régulièrement des problèmes de rupture de médicaments. Vous vouliez intervenir aujourd'hui, on vous écoute.
Ok, en fait, juste pour rectifier la partie, il n'y a pas fréquemment de rupture. Comme juste nous sommes maintenant sous les fonds mondiaux, donc pratiquement il y a souvent des petites ruptures dues à l'approvisionnement au niveau de certains centres de santé. Mais jusqu'à présent, vraiment, la prise en charge est tout à fait correcte et puis vraiment, les patients ne se plaignent jamais. En fait, j'ai trois questions à poser à vos invités. La première, c'est par rapport juste à la dernière recommandation de la prise en charge des personnes vivant par le VIH et l'hépatite B. Si il peut me donner vraiment le contenu juste un peu de cette recommandation de l'OMS. Et la deuxième, c'est par rapport juste à le traitement de l'hépatite B, c'est en combien de temps en cas de co-infection avec le VIH de l'hépatite et le VIH sida. La dernière question, juste, est-ce que la prise en charge vraiment gratuite dans combien de pays en Afrique?
Alors, sur la prise en charge de l'hépatite B, on va peut-être commencer par répondre à cette question. La prise en charge de l'hépatite B, des hépatites, justement, en Afrique, n'est pas gratuite, si?
Non, il y a des programmes qui proposent une prise en charge gratuite de l'hépatite, mais il faut bien voir ce qu'on définit par prise en charge. Dire qu'on donne des médicaments, moi, c'est pas tout à fait la prise en charge. C'est pas tout à fait la prise en charge gratuite. Et on vit actuellement quelque chose d'assez aberrant dans les pays africains. La même molécule qui permet de traiter l'hépatite et le VIH est gratuite pour l'infection à VIH et est payante pour ceux qui sont atteints d'une hépatite en tant que mono-infectés.
C'est-à-dire qu'ils ne sont pas atteints par le sida, voilà, ils sont que l'hépatite, mais pour le coup, ils n'ont pas accès gratuitement au traitement.
Cette molécule, c'est le tenofovir, qui est générique, qui est largement accessible dans nos pays. Donc, gratuite, la prise en charge de l'hépatite, je parlerai de la Côte d'Ivoire. Il y a un programme d'accès pour un certain nombre de patients qui ne représentent même pas 10%, voire 5% des patients mono-infectés par l'hépatite B. On a fait un genre de surveillance récemment avec certains des pays africains au niveau du RESAPSI, même de notre réseau africain. La prise en charge de l'hépatite B n'est pas gratuite. On peut encore avoir de la chance chez les co-infectés, entre guillemets, mais pour l'hépatite C, c'est le drame. Il n'y a pas d'accès.
Or, Pierre-Marie Girard, il y a un excellent traitement maintenant contre l'hépatite C.
Ah, il y a une révolution qui est en train de se dérouler sous nos yeux d'accès de nouveaux médicaments, alors qu'avant, ils étaient très compliqués pour traiter l'hépatite C. Maintenant, on a des médicaments qui sont en train de se simplifier, qui donnent la perspective de traiter uniquement par des comprimés, bientôt à court terme, et qui sont terriblement coûteux, puisque c'est 30 à 50 000 euros par an en France pour avoir accès à ces médicaments. Donc, il faut à tout prix se préparer à avoir une politique d'accès à ces médicaments, y compris des prix différenciés, y compris une mobilisation de l'OMS, y compris des génériqueurs. Et là, on va tomber sur ce qui était évoqué tout à l'heure par le professeur Ndoye, c'est-à-dire la protection par les brevets, puisque les nouvelles réglementations ne sont pas en faveur de la fabrication de la production de génériques. Donc il y a un énorme problème qu'il faut absolument affronter de la même façon qu'il a été affronté à la fin des années 90 pour le VIH.
Alors de façon très concrète, professeur Imran Ndoye, comment vous faites pour essayer de faire baisser le prix des médicaments? On a compris qu'une de vos bataille aujourd'hui, c'est ça, vous faites quoi là? Vous allez voir les laboratoires quand vous êtes à Paris comme ça et comment vous vous y prenez?
Bon, je pense qu'il y a moins d'activisme maintenant, parce qu'au début, vous savez qu'on avait été appuyé par des activistes du Nord. Hein? Mais maintenant, moi, je me rends compte qu'une bonne partie de ces activistes, maintenant, sont dans les laboratoires pharmaceutiques. Sont embauchés là-dedans. N'est-ce pas? Bon.
Alors, grosse déception. Comment vous faites, alors? Vous essayez d'aller les voir?
Maintenant, je sais pas.
Leur demander ce qu'ils sont venus?
Aujourd'hui, on est un peu trop seul, dans ce combat-là. Maintenant, je pense que nous, bon, déjà, avec, si dans le cadre de, il y a une ONG française,
Sidaction,
avec Sidaction et tout. Bon, on essaie de réagir. Bon, mais je pense qu'il y a toute une mobilisation qui devrait être faite dans ce sens. Mais à l'époque, si j'ai bonne mémoire, on était appuyé aussi par le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, n'est-ce pas, qui avait négocié avec les industries pharmaceutiques. Moi, je pense qu'il est temps quand même que l'ONU-SIDA et le secrétaire général refasse cette négociation, ne serait-ce que pour l'accès aux troisième ligne. Bon, maintenant, pour en revenir à Serge posait tout à l'heure le problème de certains médicaments qui sont gratuits pour les programmes de lutte contre le sida et pas du tout pour les programmes d'hépatite. Bon, je pense que un des grands problèmes en Afrique, c'est la verticalité des programmes. Il faudrait de plus en plus qu'on essaie de voir comment fédérer ces programmes au niveau des ministères de la Santé dans un avenir proche, parce qu'on est obligé de le faire, n'est-ce pas? Les programmes santé maternelle, programmes hépatite et programmes...
Il faudrait qu'il y ait plus de liens entre tous ces programmes et moins de...
Beaucoup plus de liens. Bon, mais déjà, nous, on a anticipé. Je peux dire qu'au Sénégal, en tout cas, tous les tests, par exemple, au niveau des banques de sang, nous l'avons démarré même avant qu'il y ait un programme hépatite au Sénégal. Quand on teste, c'est le programme SIDA qui a acheté les tests pour que les Sénégalais ne soient pas contaminés d'hépatite. Donc c'est nous qui assurons ces tests-là depuis plus d'une vingtaine d'années. Alors, maintenant aussi par rapport à certains médicaments, bon, quand il y a une co-infection, VIH, SIDA et hépatite, bon, le tenofovir, le programme SIDA, fournit le tenofovir. Et on a fourni aussi la mivudine, n'est-ce pas? Donc je pense que maintenant ce qu'il faudrait, c'est nous allons en tout cas essayer de voir dans quelle mesure on pourrait on pourrait éviter cette disparité, cette forme de discrimination pour les
malades. Et Serge, je voudrais qu'on réponde au docteur Traoré qui demandait quelles sont les recommandations en cas de co-infection hépatite sida. Les recommandations, c'est quoi exactement?
Sur la recommandation 2010, l'OMS, la première recommandation, recommandait à tous les pays de faire la recherche de l'antigène HBS pour trouver s'il y a une hépatite chez tous les patients infectés par le VIH.
C'est-à-dire faire un diagnostic.
Un diagnostic.
Ce diagnostic, il est disponible en Afrique, justement?
Il y a des tests rapides, mais qui ne sont pas disponibles. Qui ne sont pas disponibles. Donc, mais sinon, il y a des tests rapides que l'on peut faire, que l'on peut diffuser, qui n'ont pas été validés encore, Pierre-Marie le dira, chez les co-infectés, mais je pense qu'il n'y a pas de problème, on peut les faire. Secondairement, l'OMS a recommandé que tout patient co-infecté devrait bénéficier d'un traitement antirétroviral, quel que soit son taux de CD4. Il faut bien voir ce qui avait été recommandé.
Donc une mise sous traitement plutôt que les autres.
Plutôt. En se basant sur le fait qu'on agissait en même temps sur l'hépatite B, qu'on empêchait l'hépatite d'avoir un effet sur le virus et on protégeait le foie sur le long terme. Donc ça, c'est une bonne recommandation, mais que nous, au niveau de l'IMEA et du RESAPSI, on a amendé en disant que franchement, il faudrait que ce soit une hépatite chronique active et en ayant des marqueurs de substitution qui sont les marqueurs hépatiques, les taux de transaminase. Et à moins de 500 CD4, par contre, on recommande de traiter tous les patients co-infectés.
Donc merci beaucoup, docteur Traoré, pour votre question. On arrive à la fin de cette émission. Pierre-Marie Girard, j'aimerais bien un mot de conclusion. D'abord, qu'est-ce qui va se passer demain dans ces 7e rencontres Nord-Sud? C'est justement d'essayer d'harmoniser les recommandations et d'essayer de voir quelles sont les difficultés dans les pays africains, c'est ça?
Oui, c'est donc les 7e rencontres Nord-Sud. Et on s'est toujours inscrit avec mes collègues et amis ici présents sur l'accès aux antirétroviraux, avec tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire le dépistage dont on a beaucoup parlé, et la qualité de suivi. Maintenant, on va s'asseoir demain et revoir un peu toute la problématique de ces infections associées et comment on va s'y prendre pour que les systèmes de santé ne se sanctuarisent pas, ne se focalisent pas uniquement sur la problématique du VIH, mais aussi sur toutes les autres pathologies qui sont associées. Ça part aussi d'une éducation, d'une formation des médecins, d'une sensibilisation des soignants, d'un appui au laboratoire sans discrimination, c'est-à-dire sans appuyer un laboratoire uniquement sur la problématique VIH, mais aussi sur le diagnostic des infections bactériennes, sur aussi, on l'a dit tout à l'heure, le diagnostic des hépatites B et C, car le test de dépistage des hépatites B et C est encore très largement insuffisant. Et on va parler d'une maladie dont le nom est un peu étrange,
que j'ai pas voulu prononcer,
cryptococcose, qui est difficile à prononcer, mais c'est une tueuse terrible, c'est-à-dire ça peut emporter un malade, c'est une sorte d'infection par un champignon qui va se répartir partout, y compris autour du cerveau, et qui peut tuer un patient en 10 jours et dont le diagnostic est difficile. Difficile parce qu'il n'y a pas de symptômes à part de la fièvre, une grande fatigue et un peu mal à la tête. Mais il y a un traitement remarquablement efficace et il y a un test diagnostique, un test rapide qu'on peut faire au lit du patient qui coûte extrêmement peu. Donc il faut absolument diffuser. Il y a un million de morts à cette cryptococcose, 700 000 morts de cryptococcose en Afrique subsaharienne actuellement et ils sont pratiquement tous surviennent chez des patients infectés par le VIH. Donc il faut absolument démocratiser ce test, le rendre disponible et apporter
les médicaments. Et là, la question, c'est la formation des médecins dont vous parliez.
Voilà, formation des médecins, développement des laboratoires sur des techniques simples et accès à ces médicaments.
Professeur Pierre-Marie Girard, professeur Serge Ollier, professeur Ibrahim Dunn, merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez dans Priorité Santé, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. On va terminer en parlant de la situation humanitaire à Gaza.
Priorité Santé sur RFI.
Gilbert Potier, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes directeur des opérations internationales de Médecins du Monde. Vous alertez avec un certain nombre d'autres ONG sur la situation humanitaire à Gaza. Alors, de façon assez concrète, quelle est la situation pour l'instant dans les hôpitaux à Gaza?
Alors, de façon concrète, nous n'intervenons pas directement sur les hôpitaux. Donc, les Gazaouis sont très structurés. Ils ont eu malheureusement affaire de nombreuses fois à des attaques de ce genre et donc ils sont plutôt bien organisés. Là, ce que Médecins du Monde avait fait depuis Plomb Durci, c'est qu'on avait préparé les infrastructures civiles à recevoir on les avait équipées en petit matériel d'urgence pour ne pas justement occuper en permanence les hôpitaux lorsqu'il y avait des petits soins qui pouvaient être faits au niveau local. Donc il y a un plan de contingence et nous ne sommes pas la seule organisation humanitaire qui a été fait à chaque fois au niveau des organisations pour que justement, en cadre d'urgence, ça puisse être appliqué préalablement.
Mais de façon concrète, il y a déjà des problèmes de rupture de médicaments ?
Alors, de façon concrète, effectivement, le fait de la frontière, de fermeture de la frontière avec une seule entrée sur la bande de Gaza, crée tout de suite des phénomènes de tension puisque on est très fréquemment à la limite de la rupture de stock et actuellement, nos équipes qui sont de l'autre côté de la frontière en Israël essaient de faire passer des médicaments parce qu'on craint la rupture de médicaments essentiels.
Et vous dénoncez d'ailleurs, il nous reste juste quelques secondes, avec d'autres ONG, un risque de désastre sanitaire.
Alors ce qui est important, c'est surtout qu'on dénonce, et il faut le réaffirmer, qu'il y a un droit international humanitaire qui protège les civils. Et dans les conflits militaires, ce sont toujours les civils qui sont les victimes, les premières victimes. Les militaires sont en général très bien protégés, maintenant ils frappent à distance, et donc ce sont les victimes civiles qui sont les premières impliquées dans le conflit actuellement.
Et vous voulez alerter sur ces questions, on trouvera plus d'informations d'ailleurs sur votre site internet qui sera sur le nôtre RFI.fr dans la rubrique Priorité Santé. Merci beaucoup Gilbert Potier, on arrive à la fin de cette émission. Demain, on parlera du congrès de l'Association française d'urologie. Vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos questions, soit par email à priorité.santé@rfi.fr, soit par téléphone au 33 1 56 40 18 22. À demain.
RFI est là-bas, mais aussi ici. Cara, 95.6 FM.